Voilà. Salut à tous. J'espère que vous allez bien de l'autre côté du poste et que vos oreilles sont prêtes pour une nouvelle balade artistique. Cette semaine, je vous propose d'entendre une émission signée à Racaille, en rediffusion toujours et consacrée aujourd'hui à l'artiste Hervé Di Rosa. Un garçon qui, très jeune, rencontra le succès, un artiste assez connu donc, et même un peu majeur, en France en tout cas. Et alors donc, pourquoi en parler ici, vu que c'est la place des mineurs inconnus ou presque ? Eh bien, parce que ce garçon n'a eu de cesse de s'intéresser et de faire connaître et reconnaître l'art des autres. Des autres qui œuvrent un peu partout sur la terre, et des autres dont le travail n'aurait officiellement aucun rapport avec l'art, soi-disant. Au final, ça donne une production fabuleuse et une collection telle que Monsieur Di Rosa en conçut un musée à Sète, dans le sud de la France. Je vous laisse en compagnie de nos amis Piquecou et Robert pour une sortie à la fête foraine. Bonne visite et à tout à l'heure.
Toute voile dehors pour la bio d'Hervé Di Rosa. Alors attention, c'est préparé, c'est mitonné, c'est du travail de pro. Alors s'il vous plaît, hein, ayez l'oreille attentive.
Ouais, alors donc on va commencer par la bio d'Hervé Di Rosa, parce qu'effectivement l'exposition qu'on est allé voir à Maison Rouge s'intitulait Hervé Di... ça s'appelait, le titre de l'exposition l'intitulé c'est Plus jamais seul, c'est Hervé Di Rosa et les arts modestes. Donc on va commencer par rappeler un peu qui est Hervé Di Rosa et ce qu'il a fait un petit peu tout au long de sa vie. Après on verra un peu ce qu'on entend par les arts modestes et puis on racontera enfin tout ce qu'on a vu dans cette exposition un petit peu magique, quoi.
Et on ne s'est pas arrêté au bistrot avant de rentrer dans l'expo, pas comme la dernière fois. Là, on était privé de bistrot à l'entrée et à la sortie. Bon, enfin, passons.
Voilà, alors Hervé Di Rosa, il naît en 1959, c'est un petit gars du Sud, il est né à Sète. Son père est ébéniste et voilà, c'est un papa qui travaille le bois, mais malheureusement, pour le papa est allergique au vernis, donc il sera obligé de travailler comme manutentionnaire au chemin de fer, ce qui ne l'empêchera pas de continuer à travailler avec ses mains sur des petits oiseaux qu'il fabriquera en liège, quoi. Alors Hervé Di Rosa va rencontrer Robert Combas en 1976 chez un disquaire à Sète. Et il va se rapprocher avec son frère, donc Richard, qu'on appelle Buddy. Hein. Richard Di Rosa est surnommé Buddy. Donc la petite bande, là, Buddy, Robert Combas, Kitty Brindel, qui est l'amie de Robert Combas, vont tous se retrouver autour de préoccupations d'adolescents. Hein, c'est-à-dire, à cette époque-là, c'est la musique rock, punk, c'est la BD, c'est les arts graphiques et aussi beaucoup, beaucoup d'humour. En 1978, la petite bande va créer une revue qui s'appelle la revue Bateau. Alors c'est une revue d'art assemblagiste, c'est-à-dire que c'est une revue collective qui est réalisée à 100 exemplaires. Tout est fait à la main et chacun fait des petits collages, des petits bidouillages. Et c'est dans cette ambiance de travail collectif qu'ils vont aussi former un groupe de musique qui s'appelle Les Démodés. Alors Les Démodés, c'est des chansons qui font un peu l'effet de comptines dadaïstes enrobées d'une musique simple et brutale. Donc voilà, ils chantent, ils écrivent, ils font des assemblages et aussi, ils vont aussi proposer leurs dessins humoristiques au journal Libération. Il y a un petit supplément à l'époque qui s'appelle Sandwich et c'est dans ce supplément que paraîtront les dessins humoristiques de la petite bande. Alors Hervé Di Rosa va monter à Paris, là il va partager un appartement donc avec Combas, sa compagne et un de leurs amis et là il s'inscrit à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. En 1981, c'est Ben Vautier, hein, qu'on connaît plus sous le nom de Ben, qui invente le terme de figuration libre. Voilà, quand il va exposer Combas et Rosa à Nice pour une expo qui s'appelle De ses toits à Nice. Et là, il qualifie donc le travail de Combas, de Di Rosa, mais aussi de François Boiron, de Rémi Blanchard et de Catherine Violet. Donc c'est un travail qu'il qualifie de 30% de provocation anticulture, 30% de figuration libre, 30% d'art brut et 10% de folie. Voilà, le tout donne quelque chose qui est quand même assez nouveau. Et ce terme continuera à être utilisé pour qualifier un retour donc très très libre à la peinture. Hervé Di Rosa est également lauréat de la Villa Médicis hors les murs. Donc il obtient une bourse et il part travailler un an à New York. Là, il fera la rencontre de Kettering et il va même exposer à New York. Il travaille avec son frère Richard, donc dit Buddy, qui est sculpteur. et l'exposition Viva des Rosa est présentée en 1988 au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. La même année, il réalise un parc d'attractions au bord de la mer. Alors, il y a des pataugeoires, des toboggans, des balançoires, il y a plusieurs centaines de mètres carrés. Et là, donc, les peintures et les sculptures deviennent de l'animation pour enfants. Il part à Tunis après pour une première collaboration avec des artisans. Il réalise des sérigraphies de ses personnages, René et Raymond. Et il commence en 1993 un tour du monde. Et là, il passe par exemple par Sofia où il s'initie à la technique de l'icône. Et c'est aussi à Sofia d'ailleurs qu'il va réaliser une fresque qui s'appelle « La vie des pauvres ». C'est une fresque qu'il réalise sur papier craft. Donc on a pu en voir une partie à l'exposition, même l'ensemble, je crois. Donc il travaille en Bulgarie, il travaille au Ghana, au Bénin, en Éthiopie, à La Réunion, à l'île Maurice, en Corse, au Vietnam, en Afrique du Sud, à La Havane, au Mexique. Enfin voilà, il travaille partout avec des artisans locaux et en fait ce travail le stimule énormément. Alors Hervé Di Rosa est donc effectivement aussi le concepteur de l'art modeste et en 2000, il fonde à Sète le Musée international des arts modestes. Et là, bah, il expose de nombreux artistes qui viennent du monde entier et il crée des expositions qui essayent de questionner les frontières avec l'art contemporain. Depuis 1981, son œuvre donc, a fait l'objet de plus de 200 expositions personnelles et elle est présente dans d'importantes collections publiques et privées, tant en Europe qu'en Amérique ou en Asie. Alors actuellement, il partage sa vie entre Barbès, il habite vers le boulevard Rochechouart où il a un petit atelier en fond de rue, un atelier en U qui lui sert de maison-atelier, il travaille là à peu près une semaine par an. Là, il se retranche un peu de la vie trépidante des environs, mais en même temps, il a aussi toute cette ambiance qui le stimule d'objets.
Pardon, Dominique, une semaine par an ou par mois ?
Non, une semaine par mois, pardon. Ouais. Ouais, une semaine par mois à Barbès. Il a à peu près 2 semaines à Lisbonne où il a toute sa famille et il fait régulièrement des séjours dans le sud parce que pour s'occuper du musée qu'il a créé à Sète. Donc voilà, en gros, la vie d'Hervé Di Rosa. Quoi.
Oui, en gros. Oui, ça est très grosse, hein, parce que bon, c'est toujours pareil. Les artistes jeunes ou moins jeunes, etc., qui émergent, ils ont une puissance de travail. Mais alors, faut voir. Hein, quand on va dans cette maison rouge, là, on en ressort un peu déglingue, hein, quand même. Parce que, voilà. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui semble très humain. Enfin, tout comme ma camarade Pichico était très touchée par son côté, voilà, très simple, humain, voilà, par quelqu'un qui se la pète, il n'a pas un ego apparemment, pas un ego démesuré.
Ouais, non, effectivement, dans tout ce que j'ai pu fouiller, par exemple, pour faire sa bio, j'ai cherché dans plusieurs endroits, parce qu'il y a peu d'endroits, il y a vraiment une très grande bio détaillée, donc je trouve ça plutôt sympa que même sur son site, finalement, sa bio soit résumée en quelques lignes.
Quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, la bio d'Hervé Di Rosa, bon, c'est déjà, ça commence déjà à vous situer un peu le personnage, hein. Plus quelqu'un qui n'a pas de frontières vraiment définies, voilà.
C'est quelqu'un qui a envie de toucher à tout et puis qui a eu un succès. Enfin, ils ont eu un succès très rapide puisque Hervé Di Rosa, à 20 ans, avait déjà eu des expos à Paris et à New York. Quand même.
Ouais. On peut pas dire que s'il avait vécu sous la botte nazie, il aurait probablement été un artiste dégénéré, même pas probablement, sûrement, voilà. Parce que même aujourd'hui, bon, nous, on aime beaucoup. Il y en a d'autres aussi qui aiment beaucoup. Il expose à Maison Rouge, il expose un peu partout. Mais enfin bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, encore maintenant, je ne sais pas s'il a des grands collectionneurs ou des choses comme ça, je doute un peu. Parce que c'est vraiment un art pied de nez, quoi, comme j'aime particulièrement. Voilà.
Ah ouais, c'est un art à la pêche, qui a plein de couleurs. Et effectivement, on va parler un petit peu de tout ce qu'on a vu, mais on est vraiment dans cet univers un peu BD rock. Quoi.
C'est, un peu fantasmagorique aussi, un peu, voilà, c'est du Walt Disney européen, quoi, mais le Walt Disney, moins con que Walt Disney, là, beaucoup moins con.
Petit castor Red Rider, Woody et Ratatin, Buck Burning, Sunny Tumblr, ou Sirage et Blondin, vous êtes tous canalisés. Ciné, rock et bande dessinée. Hey, ciné, rock et bande dessinée. Maintenant c'est un stable d'ador et tout cela. Damned, je suis fait comme un rat.
Cushing, Christophe Foley, Peter, Lawrence and Price. On nous fait trembler des salles à Paddy, à la place. Toujours critiqué, jamais nominé. Ironie, vous êtes toujours du vénéré.
Ciné, rock et bande dessinée. Hein? Ciné, rock et bande dessinée.
Parlons, c'est Christophe de Dano et de cela. Qui allait au bal en robe Vichy et que cheval craquait sur Hollywood avec la pilule, ça n'a plus le même goût. Et puis Hollywood, ça n'est plus ça du tout. Au secours, au secours, au secours, au secours.
Ciné, ciné, rock et bande dessinée.
Hey,
ciné, rock et bande dessinée.
Maintenant c'est triste, on adore tout cela.
Ciné, rock et bande dessinée.
Maintenant c'est triste, on veut d'adorer tout cela.
Damned, je suis fait comme un rat.
Maintenant c'est triste, on veut d'adorer tout cela.
Damned, je suis fait comme un rat.
Maintenant c'est triste, on veut d'adorer tout cela.
Damned, je suis fait comme un rat.
Ciné, rock et bande dessinée, interprétée par Eddie Mitchell.
C'est l'émission Araka, consacrée aujourd'hui, pour sa partie artistique en tout cas, à Hervé Di Rosa, qui expose, qui est exposé, ou qui expose, je ne sais pas si vous choisissez, à Maison Rouge. C'est une ancienne usine, une usine qui a été reconvertie en lieu d'expo par un mécène, enfin quelqu'un qui est un grand collectionneur, voilà, qu'on visite de temps en temps. Bon, on va poursuivre en tout cas dans les arts modestes avec mes camarades Pichetto, qui est vraiment, alors là, attention, hein, et quand elle aime, elle aime. Hein, voilà.
Ouais, alors les arts modestes, déjà pourquoi ? Enfin, c'est ouais, ce terme d'art modeste, en fait, ce qu'Hervé Di Rosa raconte, que quand il y a eu l'exposition en 1988, la Viva Di Rosa, bah, il devait être pas loin au moment où il y a une petite fille qui est sortie de l'exposition avec ses parents et qui avait dû probablement beaucoup aimé l'exposition et qui demande à ses parents, est-ce qu'on pourra retourner voir le musée d'art modeste? Et en fait, elle a fait un lapsus, au lieu de dire d'art moderne, elle a dit d'art modeste. Et Hervé Di Rosa dit que c'est à ce moment-là que ce mot a fait tilt chez lui et qu'il s'est dit, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut en fait que je nomme tout ce que j'aime, tout ce qui est là-dedans, dans ce qui me plaît, quoi.
Et merci, petite fille, parce que moi-même, plus le temps passe, c'est-à-dire quelques jours, quoi, je trouve que ce terme d'art modeste, ça fait du bien, quoi, voilà. Avec tout ce qu'on a entendu, les arts bruts, les arts outsiders, les arts machins, les arts trucs, art modeste, voilà, c'est tout simple, c'est tout con, c'est bien un truc de petite fille.
Ouais, donc ça, c'était en 1988, et en 1989, Hervé Di Rosa va créer deux boutiques d'art modeste à Paris, donc pour présenter des artistes qui sont à l'époque peu exposés, voire des artistes aussi d'art brut, et puis des produits dérivés de son travail, pour rendre en fait l'idée de rendre son art accessible à tous. Donc je crois qu'il aura à peu près 400 références. Il travaillera avec Hervé Perdriol. Et ce qu'on reprochait à Buffet la semaine dernière, enfin ce qu'on avait vu, ou ce qui lui a été reproché justement d'avoir travaillé avec des produits dérivés, Hervé Di Rosa l'affirme, dire moi je veux que mon art soit accessible, donc il y a de tout, hein. Il y a des t-shirts, des chaussettes, enfin il y a des tasses à café, enfin tout est décliné avec son graphisme.
Ben c'est ça le but des productions issues d'une œuvre, voilà, c'est de la rendre accessible évidemment. Piquet Coum disait il y a quelques jours. Elle avait vu une petite peinture de Buffet, une nature morte, un pot de fleurs ou un bouquet de fleurs à 180 000 euros. Bon, je dois dire que bon, c'est pas un smicard qui peut s'acheter ça, mais il peut s'acheter. Moi, j'ai vu, je me souviens à Cavaillon, il y avait une exposition Di Rosa au musée de Cavaillon. L'hôtel de je sais plus quoi là, l'hôtel de Cambon, Chambon, hein, bref, et il y avait des produits dérivés et c'était tout à fait accessible pour des bourses modestes et la mienne était très particulièrement modeste, quoi, voilà. Non, mais c'est très important de pouvoir mettre à la portée d'un plus large public des œuvres. Ce sont quand même des œuvres, c'est des produits dérivés d'œuvres qui existent. Et voilà, et puis c'est pas tiré à des dizaines de milliers d'exemplaires.
Voilà. Donc après ces deux boutiques qui sont maintenant fermées à Paris, en fait, il va y avoir une association des Amis de l'Art Modeste et il y a Bernard Belluc qui participera, qui va participer à leur collection. Et alors Bernard Belluc, lui, c'est un gars du Sud et on l'appelle là-bas le Ramassaïr. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un collectionneur complètement fou d'objets. Alors lui, c'est plutôt sur les années 50, mais il raconte qu'il ramasse plein de choses et il se fait des petites installations. Et en 1993, justement, il fait circuler des caravanes pour faire découvrir ses objets favoris. Donc, et c'est ces caravanes qui vont petit à petit devenir ce futur MIAM, ce musée international des arts modestes, donc, qui ouvrira en 2000. Entre-temps, Hervé Di Rosa publie également aussi des cahiers. Il y a 5 numéros des cahiers de l'art modeste.
Ouais. Oui, vous verrez, si vous allez à la Maison Rouge, sa bibliothèque, c'est quelque chose.
Mais alors, l'art modeste, c'est quoi en fait? Alors on peut dire que l'art modeste, c'est un rassemblement en fait hétéroclite hein, de petits objets, d'images, d'installations, de produits qui sont tant des produits manufacturés que des produits uniques. Alors par exemple, dans les produits manufacturés, effectivement, il y a les images en série, des images imprimées, photocopiées, sérigraphiées. Ça peut être des images qu'on trouve dans les tablettes de chocolat à l'époque, je ne sais plus quelle marque c'était. C'est des objets qui, en fait, n'ont pas forcément une grande valeur marchande, mais qui sont fabriqués dans l'idée d'être vendus ou de servir de communication pour une marque, comme justement ces images de tablettes de chocolat, comme des jouets Kinder, comme des cadeaux bonus. Mais par contre, s'ils n'ont pas de grande valeur marchande, ils ont quand même une forte valeur émotionnelle pour celui qui l'acquiert. Ça peut être aussi des rappels à l'enfance, ça peut être des souvenirs de voyage, ça peut être des rencontres. À côté de ça, il y a des objets uniques. Alors les objets uniques, eux, sont plutôt l'œuvre de créateurs qui ont peu de moyens. Hein. C'est un peu des bricoleurs de génie, comme les appelle Di Rosa. Et eux, ils fabriquent ces objets en fait pour embellir la vie, pour voilà, rendre leur quotidien plus agréable. Alors dans les pays pauvres, l'art modeste naît aussi de la récupération de matériaux, hein, de déchets de la société de consommation. Ils fabriquent des objets donc, qui peuvent améliorer leur quotidien, mais aussi des objets qui vendent aux touristes, ou alors des objets qui vont leur servir pour s'identifier, comme par exemple, là on a vu une collection d'enseignes de coiffeurs africains. Et donc l'art modeste se développe dans le monde entier, et en fait il est entre l'artisanat, l'industrie, entre le modèle original et la série. Et ce que dit Di Rosa, c'est que ce ne sont pas les objets ou les images qui sont modestes, mais c'est le regard que l'on porte sur eux qui les rend modestes, quoi. Et l'art modeste touche un peu à plein de choses. C'est-à-dire qu'il fait, tu le dépliais tout à l'heure, on a eu une grande carte, comme une carte du monde. C'est ce qu'il s'appelle, il appelle ses cartes d'art modeste, où là, on voit différents. Il y a un centre avec vraiment l'art modeste et à côté navigue l'art naïf, l'art brut, les arts populaires. Voilà, c'est un peu... C'est un
l'art
peu
contemporain, tout... même.
L'art contemporain aussi, oui. Voilà. Donc, en gros, c'est comme ça que je définirais les arts modestes. D'ailleurs, au début, il disait l'art modeste. Après, il disait les arts modestes, ce qui est un peu encore différent dans la connotation. Quoi.
Tout à fait. Et vous verrez, si vous avez l'idée, à mon avis, assez intéressante, hein, pour rester dans la modestie, de vous bouger le popotin pour aller à Maison Rouge, vous serez envahi par toute cette prolifération. C'est quelque chose d'assez effrayant d'une certaine manière, parce qu'il y en a, mais alors, il y en a, mais alors, il y en a. Et il y a même dans une salle où il y a un grand écran de Téloche qui passe des dessins d'animation, des dessins animés même. Même j'ai vu un papa, alors là j'aurais bien fait un croche-patte s'il avait pas tenu son petit gamin dans les bras, parce que il y avait les minots, évidemment, quand il jouait le super écran géant avec les dessins animés dessus de Di Rosa, les gamins ils voulaient pas les coller, mais le paternel les a arrachés à l'écran à leur petite histoire, voilà, ils étaient ils ont pas pu regarder plus de 2 minutes ou 3 minutes, quoi. Et hop, il faut partir. Alors, il y a un petit qui gueulait. Mais moi, je comprends pas, quoi, parce que ça devait être le papa branchouille, là. C'est pas bien pour les petits de regarder les choses comme ça et tout ça, quoi. me semble.
Ouais, où il était pressé parce que effectivement.
Comme il n'est pas parti en courant non plus.
Non, 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 mais parce qu'il a quand même emmené ses enfants voir des choses, choses sympas. Et cette dernière salle, c'était effectivement la reproduction de la bibliothèque de Di Rosa. Donc il y avait des espèces de papiers adhésifs qui représentaient tous ces bouquins. Et c'est assez impressionnant. Tous ces il y avait aussi des exemplaires de ces fanzines et il y avait donc ces, ces vidéos, quoi, tout ce qui l'a baigné.
Ouais. Et il y avait aussi des caisses de plastique transparente qui n'avaient pas été déballées, qui étaient pleines d'objets comme ça, de choses, de petites voitures, de petits bonshommes, tout ça en plastoc et tout, c'est quand même quelque chose. Hein. Non mais vraiment, alors allez-y calmement, à mon avis, il faut y retourner plusieurs fois, mais c'est un peu coûteux. Nous, on peut la ramener parce qu'on ne paye pas, mais bon, pour les gens qui payent et qui n'ont pas trop de sous, c'est quand même un peu embêtant. Mais parce qu'une seule fois, à moins d'emmener son pique-nique... et puis de camper là pendant toute la journée et le matin, puis en sortir le soir, quoi. Mais bon, parce qu'il y a, tellement, tellement de choses à voir. C'est beaucoup. Enfin,
ouais, c'est beaucoup, mais ce qui est sympa, c'est qu'on est chacun marqué par des choses aussi qu'on retrouve de notre enfance, forcément, ouais, quoi, quand on est à peu près dans ces mêmes années.
Absolument, oui.
C'était un extrait de Fantasia, justement, de Walt Disney. C'était The Nutcracker, donc ça doit être Casse-Noisette. Donc c'était l'opus 71A. Et justement, Robert, toi, tu disais que c'était moins con que Walt Disney, mais Di Rosa, par rapport à Walt Disney, il dit que lui, ça peut faire partie de cette phase. Ça lui a aidé à écouter de la musique classique. Il dit, là, c'est pas Stravinsky, mais dans le Fantasia, il y a plein d'artistes de musique classique différents. Et il dit que ça lui a permis d'écouter Stravinsky jusqu'au bout à un autre moment, par exemple.
Ah oui, d'accord. Non, mais je veux dire, bon, ça l'en... Je crois que Walt Disney, son mérite, comme le mérite des arts modestes, c'est d'avoir permis à des gens qui n'ont pas accès ou qui ont peur d'aller au musée, qui n'ont pas accès à la culture, à la grande culture, avec un grand K, voilà, de l'approcher. Non, ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et c'est ce qui... oui, non, mais là, je... Parce que perso, j'aime pas beaucoup Walt Disney, j'adorais quand j'étais bambin, j'ai vu Bambi, j'ai pleuré, ma grand-mère m'emmenait au cinéma pour pleurer, voilà, mais bon, après, quand j'ai appris quel était le personnage, etc., que c'était un nazi et tout ça, bon, ça m'a un petit peu refroidi, quoi.
Non, mais là, c'est plus justement pour faire passer la musique classique sur un public qui ne l'écouterait pas, a priori, quoi.
Tout à fait, oui. Et donc, bon, alors, que je vous dise, hein, on arrive à pied à Maison Rouge, hein, sur le quai, là, où il y a d'ailleurs en ce moment une expo, un bidon, là. Bon... on s'est pas arrêté dans un bistrot, ma camarade avait l'air pressée, enfin bon, j'ai suivi, hein, je peux pas m'opposer quand elle est pressée, hein, je peux rien faire, je peux pas aller barrer le chemin. On arrive à la Maison Rouge, on monte nos cartes, on passe la douane. On doit laisser nos sacs dans des casiers en plastique transparent. Enfin là, au moins, il n'y a pas de trucs pour scanner et tout. C'est déjà un soulagement. Bon, et on rentre direct. Alors là, tout de suite, il y a une expo là sur la droite là où on voit vraiment les petits animaux de son papa sculptés dans le liège. Ah moi, je croyais que c'était des apôtres chasseurs. Non, c'était son papa. Il chassait effectivement, mais il faisait ces petits oiseaux. C'est principalement des oiseaux. Qui peignait, c'est vraiment magnifique, hein. C'est fait comme des apôts, vous savez, les apôts, c'est des faux oiseaux, etc., des faux canards, tout ça que les chasseurs utilisent pour attirer, si vous voulez, l'espèce qu'ils chassent, voilà. Mais bon, pas le papa de Di Rosa. C'est vraiment très, très joli, c'est délicat, c'est bien fait. Pour moi, c'est vraiment des pièces artistiques, qu'on les appelle modestes ou immodestes, j'en ai rien à foutre, mais je le considère, je suis touché, en tout cas, on est touché avec ma camarade, je ne veux pas parler à sa place non plus, parce que je vais me faire remonter les bretelles tout à l'heure, voilà, par... Et puis aussi, il y avait la vaisselle de maman, on suppose que c'est Di Rosa qui l'a dessinée, des céramiques, oui, parce que des assiettes dans le commerce, on n'en trouve pas des comme ça, hein, voilà. Et donc, c'est tout de suite, c'est un hommage à ses parents. Voilà, c'est assez rare dans les expos d'artistes que tout de suite, il y a un hommage à leurs parents. On n'a pas vu ça chez Buffet, on n'a vu ça chez aucun artiste, d'ailleurs. Voilà, mais là, lui, tout de suite, c'est papa-maman. Je trouve ça touchant, quoi, voilà.
Ouais, parce qu'après, c'est pareil, il raconte que son papa n'aimait pas trop voyager, mais que sa maman aimait bien prendre l'avion pour aller à certains vernissages d'exposition.
Moi, ça m'étonne pas. Moi, j'avais une maman qui était un peu comme ça, et un papa aussi. Il y en a qui... un papa casanier, puis une maman qui aimait bien se balader. Voilà. Bon, alors on sort de là, c'est là, du côté cocooning, hein, et paf, on se retrouve. Alors là, par contre, dans l'espèce de couloir sombre, peint du mur au plafond, hein, sur les côtés, le sol, le plafond, mais dans les noirs et ocre, enfin un espèce de jus ocre, ou un papier comme si c'était sur un papier craft. Et là, c'est, comment ça s'appelle?
Alors ça s'appelle la rue des pauvres.
Voilà, la rue des pauvres, et de chaque côté, ce sont des silhouettes d'humains, vraiment, on sent qu'ils sont pas vraiment dans une joie de vivre. Voilà, rayonnante, hein, ils sont des teints, bah, évidemment, avec le fond de couleur ocre jaune, là, c'est pas vraiment la joie, c'est du noir et blanc, c'est du trait, c'est magnifique, hein, c'est très, très, c'est, mais vraiment, il se dégage de cette balade dans ce couloir sombre, alors, c'est plus ou moins sombre, il y a des endroits où ça reste dans une pénombre, après ça s'éclaire un peu, etc. C'est très mouvant. Et ce qui est quand même, on est dans un enfermement, puisque c'est les côtés, c'est le dessus, c'est le dessous.
Ouais. Hein,
c'est,
voilà. Ouais, pour info, c'est 3 mètres de large. Et les panneaux font 23 mètres de long, quoi.
Voilà. Déjà, représentez-vous le boulot, parce que c'est, il n'y a pas 3 mètres entre chaque personnage, hein. C'est des attroupements, c'est tout le long, quoi. C'est vraiment, c'est plus du tout le Di Rosa art modeste, parce que normalement, il est plutôt adepte des, on verra ça à la suite de l'exposition, on prend vraiment mal au crâne, hein, mais là, parce qu'après il y aura des dégueulis de couleurs invraisemblables, mais là, vraiment, c'est une espèce d'ascèse picturale sur ces 23 mètres, hein. Alors 23 mètres d'un côté, 23 mètres de l'autre, ça fait déjà 46 mètres, plus 23 mètres au sol, 46 et 23, ça fait 69, 69 et 23 en haut, ça fait 72, ça fait 92 mètres, mais c'est quand même une surface considérable. Enfin, si vous êtes plus fort que moi, ou peut-être ma camarade, elle est en train de faire des calculs dans la régie, elle pourra vous expliquer la surface totale de ce travail. C'est quand même assez géant. Voilà. Alors c'est bien foutu, parce que c'est lui qui a pensé ces accrochages, qui a pensé toute cette exposition. Je crois que c'est ça, hein, Dominique.
Oui, oui, je pense que c'est lui qui a dû faire commissaire d'exposition.
Et alors, qui avec ce côté, bon, cocooning des parents, etc. Et d'un coup, paf! paf, on se retrouve là dans ce couloir de la mort. Là.
Je veux dire que... Ce que tu n'as pas précisé, c'est qu'au sol, il y a aussi un lino qui fait toute la surface, qui est peint de la même manière.
Oui, tout à fait.
Et, alors le lino, j'ai vu qu'il avait, il avait peint avec un ami à lui qui s'appelle Jean Cessier. Voilà. Et on le voit, d'ailleurs, on le voit, il y a une photo où on le voit dans son atelier en train de peindre le lino. Quoi. Je trouve ça assez fabuleux, justement, que ce ne soit pas des petites mains qui lui fassent le boulot.
Voilà, comme certains peintres contemporains que je ne nommerai pas, qui se faisaient aider par des petites mains, justement, qui n'apparaissaient pas, d'ailleurs, quand, si vous voulez, voilà, il laisse dans l'ombre cette collaboration. C'est un petit peu dégueulasse, je trouve, un petit peu petit, pour dire. Mais là, dit Rosano, il se cognait tout seul le boulot, et il, quand il peint le sol, il est assis par terre et il peint comme ça directement son lino. Voilà. Non, c'est magnifique, c'est vraiment là. Moi, j'ai un peu déraillé là. Je voulais dire que là, on retrouve un artiste, un grand artiste. Voilà. C'est plus quelqu'un qui fait dans les choses de figuration libre, etc. Humoristique, joyeuse et tout, là il est dans le si vous voulez, dans le dur, quoi. On peut dire ça vraiment.
Mais c'est vrai qu'il avait fait ça dans les années 90-95, et ce qu'il raconte, c'est qu'il s'était passionné pour Buffet, justement, on en parlait la semaine dernière. Il avait vu un tableau de Buffet qui représentait des Espagnols qui mangeaient des arêtes de poisson, donc ça a dû le titiller, et il dit que cette rue des pauvres, c'est un mélange de Buffet et de Dick Tracy.
De Buffet, Dick Tracy, très bien, oui, voilà. Dick Tracy, oui. Ouais, bien sûr, oui. Non, voilà. Oui, c'est curieux qu'il rende un hommage comme ça à Bernard Buffet, c'est un des rares artistes français qui l'ait fait, peut-être même le seul d'ailleurs, parce que dans toutes les choses qu'on a lues, qu'on a vues, etc., on n'a pas remarqué que les artistes connus dont on parle ici, ou inconnus, se soient vraiment branchés sur Buffet.
Ouais, d'ailleurs, dans l'exposition, par la suite, on a vu aussi un petit clin d'œil à Buffet, puisqu'il y a un Lugère, là, c'est un pistolet.
Allemand.
Ouais, un pistolet allemand qui est en faïence blanc, et il y a un graphisme de Buffet dessus, et sur
le canon,
sur le canon, c'est écrit, alors c'est Buffet qui l'a écrit, Malraux me détestait.
Ouais, voilà. Et pourquoi je vous le donne, Émile Malraux le détestait, ce vieux con? C'est parce que, si vous voulez, Malraux, lui, c'était l'art abstrait, vous voyez, il voulait être original, quoi. Alors, comme disait Robérol, l'art abstrait, ça a commencé avant la guerre. Mais ça a continué après la guerre, et ça n'en finissait plus. Et comme le dit toujours Robérol, qui en a souffert, hein, comme tous les artistes figuratifs, Robérol, Lorjou, Buffet, etc., etc., en ont souffert, eh bien, la queue de l'art abstrait n'en finissait pas de finir, voilà. Et Malraux, c'était l'État, hein, déjà, ça préfigurait l'art contemporain d'aujourd'hui. Si vous vouliez avoir des thunes de l'État, bah, il valait mieux être abstrait que figuration libre, voilà, ou figuratif tout court, quoi, voilà. C'est comme si la figuration était finie, quoi. J'aime bien les mecs comme ça, un politique, parce que bon, même si Malraux a fait des choses, soi-disant, enfin, il était pendant la guerre d'Espagne, il était dans, etc., etc., mais bon, mais ça veut pas dire que c'est pas parce qu'il a fait la guerre d'Espagne avec les brigades internationales que c'est un dieu, hein. Non, il y a des gens qui ont fait la guerre d'Espagne, qui sont morts, etc., et dont on parlera jamais, bon, alors, hein. Mais Malraux, puis après, être ministre de la culture avec De Gaulle, quand même, faut le faire, un ancien coco, hein. Bon, enfin, mais les cocos, ils sont prêts à tout pour retourner leur veste, hein. On sait bien que, bon, bah, on va pas délirer là-dessus, mais enfin, on peut délirer sur les choix de Malraux, qui a empêché, si vous voulez, de toutes les manières possibles, que les gens qui n'étaient pas abstraits puissent s'exprimer. Voilà tout ce que je voulais dire. Ah
ouais. Et sinon, si par rapport à cette rue des pauvres en noir et blanc, c'est Hervé Di Rosa avait commencé à travailler au départ, quand il avait 15 ans, il travaillait qu'en noir et blanc. Et il voulait faire du graphisme, et il s'est aperçu que, en fait, le graphisme allait le cantonner, la technique allait trop le cantonner, qu'il manquerait de liberté pour s'exprimer. Donc il a laissé tomber une carrière de graphiste pour faire de la peinture.
Voilà. Enfin, la peinture, de la sculpture, des j'avais vu, c'était quand j'étais dans le sud profond, là, en relégation, à Cavaillon, à la médiathèque de Cavaillon, il y a eu une expo, c'était Les Di Rosa à ce moment-là. J'avais acheté le catalogue. Et c'était le même principe qu'à Maison Rouge, c'est-à-dire qu'ils avaient aussi fait un sol, on marchait sur une peinture, les murs, pareil, étaient occupés par d'immenses panneaux peints, mais là, c'était pas du noir et blanc, c'était toutes les couleurs, et puis il y avait aussi des sculptures, etc., etc., leurs sculptures, c'est-à-dire des formes en plastique, souvent, ou voilà, ils étaient déjà, je vous parle des années 80, hein, donc ça fait quand même... plus de 30 ans. Ouais, ils étaient déjà en cette veine-là, mais c'était les deux frères qui travaillaient ensemble, alors que maintenant, chacun travaille de son côté, mais comme ils ont un style, surtout en sculpture, qui est très proche, on a du mal à faire la différence, quoi. Parce que là, dans cette expo, il y a des sculptures fabuleuses, on doit dire. Et ma camarade Pizieux a particulièrement été sensible à des totems géants, là, je ne sais pas comment on appelle ça.
Ouais, c'est des robots, non? C'est pas des...
Des robots,
qu'il a fait quand il était en Afrique. En fait, à chaque fois qu'il arrive dans un pays, il travaille avec les artisans locaux, il s'imprègne des techniques, et lui, crée à ce moment-là avec les techniques qu'il a découvertes.
Oui, là, c'était des immenses, ils font 3 mètres de haut, je ne sais pas combien, en bois, recouvert de métal, et puis avec des décorations en perles. Non, il faut, c'est magnifique, hein, c'est vraiment une puissance, et puis en même temps, ces petites notes de gaieté avec ces petites perles de toutes les couleurs, là, ça fait, vous savez, comme ces plastrons indigènes, etc., etc., voilà. Non, c'est étonnant, parce que, c'est des artistes vraiment protéiformes, hein, comme pouvait l'être un mec comme Picasso ou des gens comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire du noir et blanc superbe, de faire, de mettre en valeur, si vous voulez, les œuvres hyper modestes de papa et maman, en même temps de montrer des peintures géantes en couleurs. Tu dis, ça dégueule de partout. Moi, j'avais mal à la tête quand je suis sorti. Hein. Pas une migraine à me terrasser, mais quand même un petit fond de mal de tête. Et puis voilà, ces sculptures géantes, et puis ces petits trucs de rien du tout. C'est quand même... Voilà, et on a des scouts à chaque fois.
Et puis il y a aussi des objets qu'il a ramenés de ses voyages. Ouais. Il y a toute cette première grande salle où justement c'est plutôt des objets de sa collection. Mmh. Soit ça peut être de l'art brut, comme il y a un tableau de Zinelli, ou alors il y a des petits bateaux en bois qu'il a rapportés.
Ou
il y a justement ce Lugère avec de Bernard Buffet. Enfin, il y a vraiment plein de choses.
Oui, il y a, si vous voulez, c'est pour ça que je vous dis, il y a trop de choses. Et nous, on a eu un dossier de presse, avec c'est un Art Presse qui est consacré à Di Rosa, où on voit, si vous voulez, cet amoncellement de. Il y a aussi des fusils. Ah, mais les fusils, c'est pas lui.
Non, c'est le fusil de Robillard.
De Robillard, voilà, que je déteste. Enfin bon.
C'est dans son cabinet de curiosité après.
Je peux pas aimer Robillard, je peux pas aimer un mec qui fait que des armes de guerre, quoi. Ça, c'est plus fort que moi. Je veux pas dire que je sois un modèle de vertu, mais bon. Ça rappelle trop de bons souvenirs, hein, les armes de guerre. Non, alors là, sur le dossier de presse de la Maison Rouge, là, on voit, il y a tout ce qu'on a vu. Pratiquement dans cette expo, c'est quelque chose. Il y a aussi des rampes qui montent, qui descendent, des petites rampes avec des autos. C'est ce qu'on appelait les petites autos quand on était gamin. Là, je crois que les gamins, quand ils voient ça, ils doivent oublier, si vous voulez, leur espèce de chose téléphone là, avec des écrans et tout, parce que c'est un univers fascinant de voilà. Puis il y a des interprétations aussi de Tintin et Milou, mais par c'est Di Rosa, sculpture et collection de Colomb. Ah non, sculpture et collection de Colomb. Togo, Ghana, Cameroun. Ah oui, c'est le Tintin et Milou vu par les Africains. Ah oui, c'est magnifique. Ouais, tout ça, ouais, des totems avec des clous et tout. C'est un mélange d'art africain traditionnel et d'art africain inspiré des BD européennes, voilà. Il y a aussi une vitrine immense là. Oh non, mais c'est quelque chose de délire.
Ce qu'on voit après là, justement, toutes ces collections de voitures, d'avions, enfin.
Oui, c'est ça, hein, voilà.
Toutes ces petites voitures qu'il a dû ramasser un peu partout. Ouais. Et après, quand on dans les salles qui suivent encore, là, il y a toute une installation. Là, c'est carrément tous les petits personnages en. C'est quoi? C'est en latex ou en plastique là qu'on peut récupérer. Je crois que lui a travaillé avec Starlux qui fabrique ces ces petits personnages, et ça, c'est arrivé assez tard. C'est vrai que lui, il est, dans son enfance, en fait, il n'y avait pas abondance d'objets comme il y a maintenant. Il disait que quand on était dans le Sud, en plus, à 7, on n'avait pas tant de choses que ça autour de soi. Donc, ses découvertes ont été assez magiques. Et il a travaillé chez Starlux. Après, il a aussi modelé lui-même des petits personnages après avoir collectionné les premiers Star Wars, des choses comme ça, quoi.
Ouais, voilà. Et puis il faut parler aussi, bien sûr, de sa peinture colorée là. Mais alors, c'est là des choses aussi assez hors normes du point de vue des dimensions. Et alors, en couleur primaire, souvent il y a pas de ton rompu, de choses comme ça. Et alors là, c'est vraiment un délire, quoi. C'est vraiment quelque chose d'invraisemblable. Je veux dire, je me demande, enfin, la question qu'on se pose quand on a pratiqué un petit peu ce genre de comment dirais-je d'expression plastique, on se demande comment un être humain normalement constitué et un artiste, les artistes normalement constitués, j'en connais pas beaucoup, enfin, comment un artiste peut, si vous voulez, sans être complètement branzingue, arriver à réaliser des espèces de, oui, on peut dire de je voudrais pas dire dégueulis, parce que c'est pas du dégueulis, mais c'est pas dégueulis pour dire que ça c'est comme ça, ça dégouline de partout, voilà, la couleur, le mouvement aussi.
Ouais, le mouvement, tous ces personnages vraiment BD, quoi. Il y a beaucoup de monstres, hein, les monstres, il est fasciné par les monstres, donc il y a plein de personnages qui ont un œil, ou alors carrément une série d'yeux les uns au-dessus des autres.
Non, c'est ça. C'est du grotesque, mais du grotesque arrivé qui arrive au niveau d'une création artistique majeure, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça le coup, ce qui est un peu étonnant. L'impression d'être un docteur en Sherman, mais ce qui est un peu étonnant dans la production de Rosa, c'est que il a fait avec du grotesque, avec du vulgaire, avec autant dans les couleurs que dans les formes, que dans les expressions, etc., etc. Il arrive avec quelque chose de vraiment innommable. De faire une œuvre qui est quelque chose qui nous apprend encore et toujours, qui nous apprend quelque chose sur qui on est, sur dans quoi on vit, pourquoi on vit. Ça atteint une dimension philosophique, hein. J'irai pas regarder dessous, etc. Mais parce que je pense que la peinture, comme le disent certains artistes que j'aime bien, c'est un art visuel, la peinture. C'est pas un art introspectif. qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qu'est-ce qui était son enfance et tout? Et patati patata. Non. On voit des formes, on voit des couleurs, on voit une composition, émotionnellement, ça nous fait quelque chose, ça nous fait rien du tout. Point. Voilà. Après, s'il y a des gens, mais c'est surtout le fait de quelques exégètes qui en font leur fond de commerce, d'essayer de trouver, d'inventer si vous voulez, des motivations ou des choses sous-tendues des œuvres. Mais en fait, pomme à pomme, je me dis que un artiste, c'est pas un psychanalyste ni rien, il fait ce qu'il a envie de faire, ce qu'il ressent, ce qu'il a besoin de faire, et point. Et je pense que notre regard doit s'arrêter là, il doit pas aller chercher l'envers du décor, ça n'a aucun intérêt.
D'ailleurs, il a lu du Buffet, hein, il avait quand même Di Rosa a une grande culture quand même artistique par les livres aussi. Et ce qu'il aime dans du Buffet, c'est ce qu'on avait lu dans cette émission qui est dans son livre L'homme du commun, où il dit que l'art est là où on l'y attend le moins.
Voilà. Tout à fait, absolument, ça définit. Je veux dire que du Buffet aussi, on vous le rappelle de temps en temps au cours de ses émissions, a écrit 3 bouquins majeurs sur la peinture, sur l'art, enfin, et qui définit. Il a des définitions, il a des écrits sur la création qui sont magnifiques et que tout le monde, enfin, tous ceux qui s'intéressent à la création artistique devraient lire. Et même Dubuffet, lui aussi, il introspecte pas. Il pose des des réflexions sur ce qu'il regarde, sur ce qu'il a envie de faire matériellement, voilà, pas sur ce qui sous-tend tout ce qu'il a envie de faire. Il fait pas non plus, lui non plus, de psychologie à deux balles. Voilà, c'est ça que voilà. Ce qu'on peut ressentir, c'est une démonstration quand même assez magistrale, cette exposition d'Irosa à la Maison Rouge, une démonstration magistrale, si vous voulez, de l'art visuel, de l'art qui se voit, de l'art qui donne des émotions, de l'art qui peut fatiguer aussi, de l'art qui peut répulser aussi, etc. Mais voilà, ça... en surface, c'est pas en 3D, enfin ça peut c'est une ronde bosse, oui, mais je veux dire, il y a pas, dans une sculpture, on va pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de la sculpture, quoi qu'il y ait eu des sculptures où ce qui était intéressant, c'est à l'intérieur, mais là, c'est autre chose, c'est quand même aussi quelque chose de palpable et de visible, voilà, et d'Irosa, cette expo à Maison Rouge, ça vous en donne le ton, quoi, voilà, de savoir, si vous voulez, c'est parce que s'il fallait, alors sûrement qu'il y a encore une fois des rigolos qui vont vous en faire des tartines là-dessus, hein, mais bon, c'est pas nous ici, on n'est pas des médecins psychiatres, on est psychologues, ou je sais pas comment on les appelle, enfin des gens qui s'occupent des choses comme ça, un peu obscures. On fait pas de magie noire, voilà, nous on s'arrête à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent.
Ouais, il faut se laisser vraiment embarquer dans tout cet univers, en fait. Hein.
Oui, complètement.
Voilà. Faut jouer ce jeu de plonger dans tout ça et de voir effectivement tous ces matériaux, toutes ces techniques. À un moment, c'est pareil, c'est des couvercles de calebasse, donc ouais. ils sont tressés. Après, il y a d'Irosa qui en a fabriqué aussi, donc il y a les deux séries qui sont mises côte à côte. Et ouais, faut essayer de voir justement tout ce qu'il y a, tout ce rapport aux objets, à l'enfance, tout ce rapport au monde, et tout ça c'est entremêlé, c'est ça qui est assez fantastique, en fait, qui est assez magique, finalement, quand ouais. on se laisse prendre au mieux de tout ça, quoi. C'est
oui, c'est la
on
vie se laisse
absorber,
en même temps.
Quoi.
Oui, c'est la vie. Si vous voulez, la vie naturelle. Enfin, elle est pas dans des cases. Toi, t'es ici, moi, je suis là, lui, il est là-bas. Voilà. Non, la vie, c'est un mélange. Voilà. Quand les hommes auront compris ça, bon, peut-être qu'on aura fait un pas en avant, voilà. Il n'y a pas des espèces... Oui, il y a des espèces pour les scientifiques, etc. Mais un animal et un humain, on ne voit pas trop la différence. Voilà, pour moi, en tout cas, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des gens qui sont proches des animaux, sans être des... Comment on les appelle, ceux qui sont trop très proches des animaux et tout ça, qui veulent pas les manger et tout. Là.
Les véganes,
voilà. Je suis pas dans ces choses-là, mais je veux dire, la vie, c'est pas de mettre la vie dans des catégories, quoi. La vie, c'est une explosion, un mélange, une mélasse infâme, informe. Voilà. Parce que si on commence à définir, etc., etc., les catégories et tout ça, on arrive au racisme, on arrive à toutes ces dérives sectaires qui peuvent nous conduire à ce que ce qui est arrivé il n'y a pas tellement longtemps en Europe et dans le monde, voilà, qui pourrait revenir très vite. D'ailleurs, on est peut-être sur cette pente-là en ce moment. Et des choses, des expositions comme celle d'Hervé d'Irosa à Maison Rouge, eh ben, ça nous emmène justement dans des contrées où on peut pas, si vous voulez, on peut pas prendre les armes. Voilà, en tout cas, c'est ce que je pense.
Sonner la récré. dissiper le sel de cheval. Vive la communale. En calcul et en géo, double zéro pointé. Saucisse et cacao, mais j'en sais des salis. Des bases élémentaires, j'en ai tout plein le brouillon.
Poil au tableau par Gottener, voilà toute l'énergie un peu de cette exposition.
Et voilà, ainsi se termine cette émission consacrée à Hervé Di Rosa en forme de grand 8. Pour les images, sachez que vous pourrez toujours accéder aux œuvres de l'artiste depuis chez vous, toujours grâce à la technologie moderne qui vous permet de voir des images à distance depuis un ordinateur. Nous savons ici à Radio Bigaille que vous êtes très nombreux déjà à écouter Arakaï et à apprécier ses diffusions. Alors ne gardez pas jalousement ce petit plaisir et partagez-le avec vos amis. À ce propos, vous qui écoutez avez peut-être des informations à faire passer, alors sachez-le, s'il s'agit d'une actualité artistique et locale, c'est le bon endroit. Envoyez-nous ça à radio@labigaille.org. Merci à Jérôme qui nous a encore fait la technique. Et sans technique, on le sait, il n'y a pas d'art. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre voyage dans le monde jamais pareil de l'art. Et je vous laisse avec Mélismel et Mouloudji pour Faux Vivre. Bis à vous tous et tout de bon. Ciao.
Malgré l'écran, cieux, tu néances, c'est pour mieux nous manger, enfant, et les silences, et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc. Faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'ait pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos vivre. Malgré qu'on soit brave. graves et salauds, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime. C'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres prix en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage. Faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelle endormies, dans un bruit d'usine gémit le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit. Faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort s'y peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise. Faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise. Faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'il nous dise au revoir. Faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre. Faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges, jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache ratée.
Faut vivre.